Donc l'objectif de mon exposé, là, un peu chapeau, c'est essentiellement de vous convaincre que ce domaine-là est en pleine ébullition en ce moment et de vous donner quelques éléments clés par rapport à ça et d'essayer d'expliquer pourquoi l'apprentissage est quelque chose d'important pour la robotique aujourd'hui. Alors, je vais commencer justement par cette question pourquoi, autour d'un message qui me semble relativement simple, et j'imagine que beaucoup d'entre vous sont déjà convaincus de cette chose-là. L'idée est qu'on assiste en ce moment à une mutation assez profonde des objectifs de ce qu'est la robotique par rapport à ce qu'elle était il y a 10 ou 20 ans. On passe d'un monde où les robots, c'était essentiellement ce que vous aviez à gauche, donc des choses qui sont dans des usines et qui font une tâche absolument répétitive dans un environnement qui est totalement contrôlé, où rien d'inattendu n'est censé arriver, à une nouvelle conception de la robotique, où les robots sont plutôt les choses que vous voyez à droite. Et alors, dans le cas du Roomba que vous voyez en haut, la particularité, c'est que ce robot va devoir opérer dans des environnements qui sont non contrôlés, non connus a priori. Donc il va falloir s'adapter au fait qu'on est dans un environnement changeant, non connu a priori, etc. Et puis, dans la partie que j'ai voulu illustrer en bas, il y a deux aspects. Il y a le fait que les robots vont être de plus en plus au contact de l'homme, ce qui pose des problèmes de sécurité, évidemment, mais aussi et surtout des problèmes d'adaptation au comportement de l'humain. Et de nouveau, le comportement de l'humain ne peut pas être prévu totalement a priori par le concepteur. On va forcément se retrouver avec des robots qui sont dans des circonstances inattendues. Et un deuxième aspect de cette évolution, c'est que la diversité des tâches qui vont être associées aux robots devient considérable par rapport aux robots d'usine qui faisaient une tâche précise de manière répétitive en permanente. On va attendre des robots compagnons, des robots d'assistance aux humains, des robots ludiques, etc., qu'ils soient capables de faire de très nombreuses choses très différentes les unes des autres. Et on arrive au problème central qui, de mon point de vue, est la justification majeure pour l'apprentissage, qui est qu'il semble extrêmement difficile à la fois de prévoir tout ce qui peut arriver dans l'environnement de ces nouveaux robots, et d'autre part, de programmer tous les comportements qu'on est susceptible d'attendre de leur part. Vous prenez n'importe quelle tâche qu'un enfant de 5 ans sait résoudre aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que c'est très compliqué de faire un robot qui sera capable de réagir correctement face à cette tâche. Et puis vous vous dites, mais voilà, c'est une tâche parmi des milliers de tâches possibles, et il semble difficile d'imaginer qu'on va pouvoir programmer le comportement du robot pour faire tout ce qu'on pourrait attendre de ces robots humanoïdes avec lesquels on nous fait rêver aujourd'hui. Donc ça, c'était plutôt pour la question pourquoi. Enfin, pourquoi est-ce que l'apprentissage est considéré comme quelque chose d'important dans le cadre de cette révolution? Alors, compte tenu de l'évolution de ces problèmes, il y a un certain nombre de personnes, de personnalités de la communauté robotique qui se sont exprimées en faveur de la problématique apprentissage. Donc j'en ai choisi trois qui me semblent significatifs. Premier, donc, c'est Oussama Khatib, qui a dit en 2006, donc relativement tôt par rapport à cette évolution, « I have always said that there would come a time for robot learning and this time is now. » Okay. Une autre, c'est John Hollerbach qui est allé dire « Robot learning has become the most important challenge for robotics. » Et très récemment, alors, un journaliste a fait un numéro spécial pour la recherche qui est dans les kiosques en ce moment. Il est allé interviewer un certain nombre d'entre nous. Et dans le résumé de son article qu'il nous a envoyé à chacun, j'ai pu découvrir qu'il avait interrogé Raja Chatila et qu'il lui avait posé la question « Quelle est aujourd'hui la principale pierre d'achoppement ?» Et Raja a répondu « L'apprentissage ». C'est un thème de recherche essentiel dont beaucoup dépend. Donc voilà trois soutiens sur lesquels je voulais m'appuyer un petit peu. Bon, ce sont des soutiens très subjectifs, il s'agit de quelques personnalités qui s'expriment. Après, il y a d'autres aspects qui sont plus objectifs, qui sont quantitatifs. Là, je vais utiliser des données qui sont fournies sur le site de l'AFIA, donc l'Association pour la recherche en intelligence artificielle. Donc sur ces trois dernières années, il y a eu deux écoles d'été vraiment sur robot learning. Il y a eu des numéros spéciaux dans un certain nombre de journaux bien réputés dans le cadre de la robotique en général. Le nombre de workshops dans les bonnes conférences de robotique est en augmentation très forte. Vous voyez, 1 en 2007, 3 en 2008, 5 en 2009. Je ne suis pas allé compter les papiers dans les conférences majeures, mais là aussi, l'expansion est très manifeste. Et puis, par exemple, le GDR Robotique a créé un sous-groupe apprentissage, c'est un geste parmi d'autres. Il a été créé un technical committee on robot learning pour les 3E. Et puis, bon, je fais un petit peu d'autopub. Nous allons sortir début 2010 un livre qui est prêt, là, enfin, qui est entre les mains de Springer, qui s'appelle « From Motor to Interaction Learning in Robots ». Et dans les actes, vous avez le chapitre d'introduction de ce livre qui vous permettra d'avoir une vue générale de l'ensemble des contributions et de quelques éléments que nous avons pointés qui ne font pas partie des contributions comme étant significatifs de ce qui se passe en apprentissage en robotique actuellement. Et puis un autre signe que je trouve assez encourageant, Pierre-Yves Oudeyer, donc, qui est quelqu'un de très moteur pour ce qui est de la robotique développementale, qui est une des branches de l'apprentissage en robotique, a obtenu le RC Grant l'an dernier, alors dans la catégorie junior, pour un projet de robotique développementale, ce qui veut dire que l'Europe aussi est sensible à l'importance de ces thèmes-là aujourd'hui. Alors, je vous ai donné tout un tas de raisons pour lesquelles il me semble que l'apprentissage est quelque chose d'important, mais je vais quand même pointer un paradoxe qu'à mon avis, il ne faut surtout pas cacher, qui est le fait que si vous regardez aujourd'hui quels sont les résultats majeurs de l'apprentissage en robotique, ben vous ne trouvez pas grand-chose. Alors, je peux quand même pointer le fameux Stanford Autonomous Helicopter qui, par des méthodes d'apprentissage par renforcement inverse, apprend à faire des figures virtuoses de façon totalement autonome. Je pointe aussi les travaux assez significatifs de Haute-Billard en apprentissage par imitation. Et nous aurons un exposé, donc j'espère que vous verrez des vidéos qui vont plus loin que la simple image que j'ai pointée là. Mais au bout du compte, si on regarde aujourd'hui, il faut admettre qu'il y a un décalage très important entre les attentes appliquées que j'ai pointées lors de mon premier transparent et puis la maturité des méthodes. On est vraiment au tout début. Et je vais insister à la fin sur le fait que il faut admettre le fait qu'il va falloir investir un certain temps avant qu'on puisse répondre positivement à la question « Est-ce qu'il y a des choses qu'on sait faire avec des méthodes d'apprentissage qu'on ne sache pas faire sans apprentissage aujourd'hui ?» Et je suis, pour l'instant, je pense que la réponse est plutôt non. C'est-à-dire que des ingénieurs qui se donnent le temps de réaliser quelque chose sans apprentissage arriveront à faire tout ce qu'on peut obtenir par ailleurs avec des méthodes d'apprentissage aujourd'hui. Et donc le message c'est il faut accepter un peu de recherche fondamentale pendant un certain temps pour combler ce décalage. Alors je vais insister sur le fait qu'il y a différentes approches de l'apprentissage en robotique et que ces différentes approches sont à des niveaux d'utilisabilité par rapport aux attentes appliquées qui sont assez différents. C'est ça qui va être structurant pour la suite de mon exposé. Donc voilà, je vous fais un graphique où d'un côté vous avez est-ce qu'on obtient des résultats immédiats avec ces méthodes ? Et de l'autre, vous avez quel est le niveau d'autonomie finale qui est visé par rapport aux attentes que j'ai fixées lors de mon premier transparent. On voudrait un robot capable de se débrouiller en toutes circonstances. Mon idée générale est que les méthodes d'apprentissage par imitation, qu'on peut aussi appeler « learning from demonstration » ou « programming by showing », permettent aujourd'hui d'avoir les résultats les plus spectaculaires. De nouveau, on va avoir quelques illustrations de ça. Par contre, en termes d'autonomie, ça reste relativement limité parce qu'il faut montrer au robot comment se comporter dans la situation en question. Et sa capacité à bien faire dans d'autres circonstances que celles qui lui ont été montrées ne repose que sur des capacités de généralisation qui sont en général limitées. Okay ? À l'autre bout du spectre, vous avez la robotique développementale où là, on part de robots dont on considère qu'ils connaissent très peu de choses sur leur environnement, sur leur propre mécanique, sur leurs tâches, etc. au départ. Et puis, on va essayer de construire petit à petit, par des mécanismes d'apprentissage, des capacités de plus en plus élaborées, dans l'espoir d'aller vers des systèmes vraiment autonomes, au sens où un être humain peut être autonome. Et entre les deux, vous avez une catégorie pas bien claire, parce que finalement, elle développe des outils qui sont utilisés ici et là, que j'ai appelé apprentissage autonome, qui repose sur réunir toutes les méthodes où le robot a une part d'exploration personnelle pour apprendre des choses sur son environnement ou sur ses tâches. Okay. Alors, pour ce qui est de l'apprentissage par imitation, donc on aura un exposé de Misha Hersh qui vient représenter Haute-Billard. Pour ce qui est de la robotique développementale, on aura un exposé de David Filia. Et je vais dire vraiment deux mots de la partie apprentissage autonome qui est entre les deux dans la suite de cet exposé. Alors, un mot sur la communauté française par rapport à ce positionnement-là. Il y a un paradoxe qui est assez massif, qui est qu'il n'y a à peu près personne en France sur la partie apprentissage par imitation. Il y a une exception qui est dans l'équipe de Philippe Gossier. Ils font des travaux en apprentissage par imitation, mais ils le font en considérant l'apprentissage par imitation comme un mécanisme fondamental pour la robotique développementale et non pas comme une méthode qui permet rapidement de programmer des robots pour faire tel ou tel comportement. Mais sinon, le centre de gravité de la communauté française est plutôt du côté de la robotique développementale, avec justement l'équipe de Philippe Gossier, l'équipe de Pierre-Yves Houdayer, et puis une extension vers tout ce qui est apprentissage par renforcement, apprentissage de modèles, des choses que je vais vous présenter aujourd'hui. Mais voilà, la France est très peu positionnée sur la partie apprentissage par imitation, alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt ça qui permet d'avoir des applications sympathiques et des très belles démos. Alors, j'attaque la deuxième partie de mon exposé, qui est de vous présenter un petit peu la partie apprentissage autonome. Alors, je vais être très, très superficiel. Je vais juste vous indiquer qu'il y a deux grandes approches qu'il faut savoir distinguer. Il y en a une qu'on appelle l'apprentissage supervisé, donc qui est illustrée par la petite BD suivante, où vous avez un agent qui est dans un environnement. L'environnement, dans ce cas-là, en plus, c'est un directeur de thèse, donc on va appeler ça un superviseur, ça tombe bien. Le superviseur va poser une question à l'agent. L'agent va donner sa réponse et le superviseur va dire à l'agent quelle était la réponse attendue. Donc c'est ça qui est important, c'est qu'après avoir essayé une réponse, l'agent apprend quelle était la bonne réponse et du coup, la prochaine fois qu'on lui pose la question, il pourra donner directement la bonne réponse. D'accord ? Donc c'est assez facile de corriger quand on fait de l'apprentissage supervisé. Par opposition, l'apprentissage par renforcement, on est dans la même situation où on a l'environnement qui pose une question à l'agent, mais simplement, une fois que l'agent donne sa réponse, le superviseur ne donne qu'une évaluation de la qualité de la réponse. D'accord ? Il dit, ta réponse, là, elle vaut au moins 10,45. Et tout de suite se pose une question très importante. L'agent, il veut maximiser les valeurs qu'il reçoit de son environnement. La question, c'est est-ce que moins 10,45, c'est plutôt bien ou plutôt pas bien ? Et la seule façon de savoir, c'est d'essayer une autre réponse. Et si l'autre réponse vaut 20, alors moins 10,45, c'était pas bien, puisqu'il y a une autre réponse qui vaut beaucoup mieux. Si l'autre réponse vaut au moins 30, peut-être que moins 10,45, c'était bien. Donc on voit apparaître un aspect qui est plus difficile avec l'apprentissage par renforcement qu'avec l'apprentissage supervisé, qui est qu'il faut explorer les différentes actions possibles pour déterminer quelles sont les bonnes à partir des récompenses que l'on reçoit. Et donc apparaît la fameuse nécessité de l'exploration, qui pose un problème évident en robotique, qui est que s'il est nécessaire d'essayer des choses dans son environnement pour savoir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, on risque d'être amené à essayer des choses qui peuvent être embêtantes, voire très dangereuses. Okay ? Et donc ça pose un certain nombre de problèmes que vous imaginez assez bien. Alors, cette distinction apprentissage supervisé, apprentissage par renforcement, on la retrouve dans le cas des applications en robotique autour de deux grands domaines de ce que j'ai appelé l'apprentissage autonome, qui sont d'un côté l'apprentissage de modèles. Alors là, on est dans un cas d'apprentissage supervisé où on essaye de construire une fonction et la fonction en question est un modèle robotique. Donc ça peut être un modèle direct ou inverse, géométrique, cinématique, dynamique. Simplement, on va utiliser la dynamique du système comme superviseur et on va essayer d'approcher la fonction correspondant au modèle qu'on cherche à apprendre. Okay ? Alors ce domaine-là est très actif en apprentissage robotique aujourd'hui. Donc il y a des tas de gens qui essayent d'apprendre des modèles géométriques, cinématiques, dynamiques de robots. Donc là, vous avez une illustration qui s'est faite chez nous où on a appris sur le robot humanoïde iCube son modèle géométrique. Et puis à partir de là, on fait de la commande et le robot, par exemple, est capable de faire une séquence de touches sur le tableau qui est là. Alors qu'on ne lui a pas donné son modèle géométrique. Donc il a appris tout seul que quand il bouge son doigt quand il actionne tel moteur, son doigt va se déplacer dans cette direction-là. Okay ? Et il construit comme ça un modèle. Et on a montré qu'avec des techniques d'apprentissage supervisé de l'état de l'art aujourd'hui, on arrive à obtenir des modèles qui sont très fidèles par rapport au modèle géométrique que vous obtiendrez si vous le faisiez à la main. Okay ? Alors, par rapport à ça, il y a une critique qui est évidente, qui est « mais pourquoi chercher à apprendre ces modèles puisque les ingénieurs sont capables de les écrire ?» Alors la réponse est, en fait, ces travaux-là sont à considérer comme une étape méthodologique nécessaire pour mettre au point les outils et pour vérifier qu'on arrive à apprendre des modèles qu'on est capable d'apprendre. Tant qu'on l'applique au robot, on ne fait qu'apprendre des choses qu'on serait capable d'extraire automatiquement. Par contre, dès lors que le robot va se retrouver en interaction avec un environnement imprédictible, le modèle de ses mouvements, de sa dynamique, etc., selon qu'il tient une bouteille vide ou une bouteille pleine, selon qu'il est au contact d'un humain, etc., le modèle va changer. Et donc les méthodes qu'on aura mis au point simplement en apprenant le modèle du robot seront réutilisables dans un cadre beaucoup plus général où le robot est en interaction avec son environnement. Et cette étape-là est en train de se réaliser, mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, la plupart des gens se contentent d'apprendre des modèles du robot et de montrer que ça marche. Okay ? Alors la deuxième partie, c'est plutôt la partie apprentissage par renforcement. Donc là, il s'agit de construire des comportements qui vont maximiser une valeur de récompense. Donc on se donne une fonction de coût et puis on va essayer de maximiser cette fonction de coût. Alors il faut savoir que du point de vue mathématique, les méthodes d'apprentissage par renforcement ont été développées essentiellement pour traiter des problèmes à état discret et action discrète. Donc il y a des transpositions de travaux sur l'apprentissage par renforcement classique à la robotique, à condition de discrétiser l'espace d'état et l'espace d'action. Donc ça, c'est, ça marche relativement bien. Là, vous avez un exemple où les états successifs, c'est le robot tient tel ensemble de prises, et puis il va apprendre à monter un mur en minimisant l'énergie qu'il met pour monter ce mur, en explorant l'espace des différentes configurations de prises qu'il prend, ce qui est un espace discret. Okay. Donc ce genre de choses, on peut les appliquer à condition d'avoir une représentation d'état qui est discrète et puis des primitives motrices qui font qu'on a un certain nombre d'actions de haut niveau entre lesquelles on peut choisir. Okay. Il y a en apprentissage par renforcement à l'heure actuelle des progrès importants sur la partie traiter un état continu avec des actions discrètes. Et donc typiquement, là, on pourrait prendre l'état du robot avec des variables positionnelles plus fines que simplement quelles sont les prises que je tiens à un instant donné. Et toujours sur la base d'un répertoire d'actions discrets, avoir quelque chose qui fonctionne. Ce qui est beaucoup plus dur, et ce qui du coup a peu d'illustrations aujourd'hui, c'est de faire de l'apprentissage par renforcement dans le cas où à la fois les états et les actions sont continus. En fait, d'un point de vue mathématique, on se ramène à des problèmes de commande optimale. Il s'agit de maximiser une fonction de coût sur un espace d'action continue et un espace d'état continu. Okay. Avec la difficulté supplémentaire qui est qu'a priori, on ne connaît pas la fonction de coût ni le modèle du système. D'accord ? Donc il faut apprendre la fonction de coût et le modèle du système et en même temps résoudre un problème de commande optimale. Et donc vous savez tous que les problèmes de commande optimale en eux-mêmes sont déjà difficiles, donc on a des problèmes qui sont encore plus difficiles. Okay ? Alors il y a des progrès sur ce terrain-là, en particulier avec un sous-domaine de l'apprentissage par renforcement qu'on appelle les architectures acteurs critiques, où en fait on va rechercher efficacement un optimum local par des méthodes de gradient un petit peu compliquées dans lesquelles je vais pas rentrer. Et donc ces méthodes-là permettent par exemple de régler de manière optimale des primitives motrices. Par contre, quand il s'agit de faire des problèmes de commande compliqués où il va falloir réaliser des comportements de haut niveau composés eux-mêmes de primitives motrices, essayer d'appliquer ces méthodes-là sur le problème d'ensemble aujourd'hui semble compliqué. Okay. Alors, j'ai pas de vidéo sympathique à vous montrer. Donc là, vous avez des travaux de Yun Morimoto qui a appris à un bipède à marcher sans tomber par des méthodes d'apprentissage par renforcement continu. Lors d'une journée du GDR, Ian Peters avait montré un certain nombre de vidéos où un robot apprend à résoudre le problème du bilboquet. Et au bout d'une soixantaine d'essais, il le résout parfaitement. Okay. Voilà le genre de choses qu'on sait faire aujourd'hui avec ça, mais il s'agit vraiment d'apprendre à réaliser de façon efficace des gestes élémentaires. Et la combinaison de ces gestes élémentaires est un problème plus compliqué aujourd'hui. Alors, dans ce que je vous ai montré jusqu'à présent, je vous ai surtout montré l'implication de l'apprentissage au niveau d'une boucle relativement bas niveau, la boucle perception-action. Okay. Comment optimiser les actions de bas niveau étant donné les perceptions. Si on veut aller plus loin, par rapport à l'objectif que j'ai placé au tout début, qui est on voudrait par exemple que le robot soit capable de traverser la rue en toutes circonstances dans différents pays où les couleurs des feux tricolores ne sont pas les mêmes et il y a des fois où il n'y a pas de bande blanche, il faut décider si on y va ou on n'y va pas, d'accord ? Il y a des problèmes de décision et d'intelligence artificielle de relativement haut niveau. Et le message aujourd'hui, c'est voilà, on est plutôt au premier étage et le chemin est encore long avant d'atteindre les objectifs de haut niveau que vous pressentez tous quand on voit la robotique humanoïde et on se dit mais on ne pourra jamais programmer tout ça à la main. Okay. Et sur ces aspects hiérarchiques, je pense que l'approche qui est la plus convaincante aujourd'hui, même si, je pense que David le dira, le chemin est long, c'est la robotique développementale où on se pose la question comment construire des hiérarchies de concepts sur lesquels on va pouvoir raisonner pour, au bout du compte, arriver à des comportements de haut niveau qui sont convaincants. Donc, pour conclure par rapport à cette introduction très légère, il me semble, au vu des chiffres que je vous ai annoncés, que le robot learning est un domaine en pleine ébullition aujourd'hui, que les attentes de la communauté robotique par rapport à ce domaine sont considérables. Et donc, j'ai voulu insister sur le fait que résoudre ces problèmes, ça correspond à des problèmes qui sont durs. Et donc, de mon point de vue, il faut attendre peu de résultats majeurs à court terme. On est tous très contents de voir le Autonomous Stanford Helicopter ou les démos de Haute-Billard qui sont convaincantes. Mais on voit bien que le chemin est encore long avant d'aller là où on voudrait y aller. Et donc, de mon point de vue, il est nécessaire d'investir dans ce domaine pour lever des verrous scientifiques qui sont durs. Mon sentiment est qu'à un niveau européen et international, cet investissement se fait. Le message, c'est je souhaite que ce soit aussi le cas en France, et c'est un peu le cas. On voit bien, bon, le GDR a créé le groupe robotique et apprentissage, mais il y a une dynamique à créer, et il y a encore beaucoup de boulot là-dessus. Merci de votre attention.